puissant. Psaume 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tout de suite, suivi de la prière, ô Dieu, affermis ce que tu as fait pour nous. Nous avons un ordre de puissance. Et si je regarde dans 1 Pierre, vous serez saints car je suis saint. Voilà tout un programme. Puissance, sainteté. On a des mots. Les mots portent en eux de la valeur. Bon, c'est peut-être mon talent spécifique, je ne sais pas, mais je ne peux pas dire, mon Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je suis dans la joie. Je suis forte. C'est pas possible. Les mots portent en eux une force. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Vous avez déjà vu un camion puissant qui est tout faible? Nous sommes des démolisseurs. Nous avançons avec l'Esprit du Seigneur qui est puissant en nous, d'accord? Si je suis dans la joie, je ne peux pas dire je suis dans la joie. Je suis heureuse. Je suis complète. Je suis dans la joie. J'explose de joie. Bon, c'est vrai que j'ai de la bouteille. J'ai appris à vivre cette joie et à la manifester différemment. Je vous comprends. Mais parfois, quand je vois, oh Seigneur, je t'aime. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Commence là, maintenant, par les mots. Nous avons une langue extraordinaire. Quand j'avais eu l'occasion de prendre la parole aux États-Unis, ça les avait amusés parce que j'avais dit on avait un big God. Il est grand. C'est pas un big God. Il est big. Il explose. Il est grand. Il est puissant. Et c'est déjà une manifestation de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Alors plusieurs de ceux qui sont ici sont assez récents, sont assez nouveaux, ne sont peut-être pas allés sur notre site. Et donc j'ai demandé à ce que soit projetée la vision et les prophéties de notre Église. Alors peut-être que vous comprendrez peut-être un peu mieux comment ça fonctionne. Moi, je l'ai tiré sur mon papier. Nous croyons que l'EPEP, Église protestante évangélique de Persan, ça veut dire, a pour mission d'apporter la guérison, donc tu es bienvenue, des cœurs et des corps au travers d'une adoration tournée vers le Seigneur Jésus. Vous tous qui êtes à Persan, n'attendez pas les prières ou les mains de ceux qui dirigent. C'est le Seigneur qui va vous bénir, qu'il va agir dans votre vie au travers de votre adoration. Pourquoi? Parce que Dieu siège dans la louange. Grimpe dans la louange, loue-le, lève tes mains, enlève les épingles là, qui sont sous les bras. Tire tes mains vers le haut, essaie de toucher au plus que tu peux. C'est vrai qu'avant, on étendait du linge, alors c'était... Maintenant, on les met dans le sèche-linge, alors ça marche moins bien, mais... Louons le Seigneur, levons les mains haut, vers, dans une adoration de cœur reconnaissant. Nous nous appliquons à élever la louange. Voilà pourquoi nous avons mis en œuvre beaucoup de sons, de moyens, pour que ça fonctionne, bien sûr. Et le Seigneur nous en a donné les moyens, c'est pas nous qui avons décidé. J'étais une très jeune maman... Ça m'est arrivé, hein, avec des très jeunes enfants. Ceux qui sont là, d'ailleurs, sur l'estrade n'existaient pas encore. C'était avec les aînés, où d'un seul coup, la pensée m'a traversée. Voilà, il y a quand même Vincent. Hein. La pensée m'a traversée, mais le jour où tous les missionnaires qui avaient fondé l'église seront plus là, qui c'est qui va élever la louange? Je croyais que c'était une idée géniale que j'avais eue. Non, c'est le Saint-Esprit qui m'a instruit dans cette pensée. J'en ai parlé aux 10 missionnaires qui ont commencé à mettre en œuvre leur enseignement musical. Après, on a eu les moyens qui nous ont été donnés par les mairies, etc. Ils ont tous été formés, mais dans le but de louer le Seigneur. C'est une pensée qui vient de son cœur. C'est l'ascenseur. Vous pouvez essayer d'y arriver à grimper à la force des bras, mais l'ascenseur, c'est pratique. Hein. Louer le Seigneur, c'est tout simple. Et la louange vous emmène dans une adoration, parce que louer le Seigneur, c'est « je t'aime, tu m'as sauvé, tu m'as aidé, je compte sur toi ». L'adoration, je sais qui tu es, je sais que je peux compter sur toi, je sais que je peux m'appuyer sur toi, je sais que tout repose sur toi. Et là, on rentre dans une dimension plus profonde d'amour, de cœur. Donc, nous nous appliquons à élever la louange pour mettre en contact ceux qui cherchent la guérison. Donc, il faut louer le Seigneur. Debout, c'est la position du combat. Qui c'est qui combat assis? Les combattants, ils sont debout. Hein. Une fois, j'avais mis un grand costume et je vous avais fait voir comment ils attachaient leur robe avec la ceinture pour courir, pour combattre. On est des vaillants soldats. Parce que chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Longtemps, longtemps, ça a été la devise de notre Église, n'est-ce pas ? Des années et des années, nous n'avions rien d'autre à dire le 1er janvier que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Ça, c'est ce que nous avons dans le cœur, parce que nous l'avons reçu, et nous l'avons reçu parce que le Seigneur l'y a mis, c'est pas parce qu'on s'est inventé un truc pour être différent des autres, c'est l'identité de notre Église. Ah, nous arrivons à la prophétie de 1999. J'aime pas la fin. Comme quoi, c'est la prophétie. Hein. La prophétie nous dit, vous êtes la voix qui crie dans le désert. Préparez un chemin pour le Seigneur. Vous êtes un hôpital destiné à soigner, remettre sur pied les déçus, les malades. Et quand ils seront rétablis, certains repartiront. Alors là, c'est le repartiront qui ne me convient pas. Moi, j'aime bien garder, avoir, multiplier. On en a vu passer des gens, c'est vrai, qui sont arrivés en piteux état. Et puis bon, ils sont allés enrichir d'autres. Ça, c'est la prophétie qui a été donnée pour l'Église en 99. 2 ans après, Donald Lee, comme pour appuyer ce qui avait été précédemment été reçu, votre louange est la guérison des nations. Rien que ça, dis donc. Alors, on ne sait pas ce qu'on produit. Nous, on cherche sa présence pour nous, pour notre nombril. Et c'est vrai que c'est bien, parce que je suis contente que les Taïwanais soient bénis, mais moi, j'ai besoin. Hein, donc, mais c'est vrai que le Seigneur a étendu nos limites, étend nos cordages que nous prions. Ça, c'est la prière de Yabetz. Eh bien, notre louange est la guérison des nations. Alors, peut-être ne saviez-vous pas que si nous élevons le Seigneur avec beaucoup de moyens musicaux, de convictions, si on n'impose pas d'être debout, mais on vous dit, et puis si on lève les mains comme ça, au lieu de les lever comme ça, on se prive de la grande bénédiction qui est là parce qu'on nous a dit d'agir comme cela. Vous regardez la prophétie de 99, vous êtes la voix qui crie dans le désert, ça vous dit quelque chose ? Alléluia, Jean-Baptiste, tiens donc, la voix qui crie dans le désert, Jean-Baptiste. Cette voix qui crie dans le désert a été annoncée dans Ésaïe, s'il y en a qui note par hasard, 40, ou Ésaïe 52, de cette annonce de cet homme qui prépare le chemin de celui qui revient, Jésus. Du temps d'Ésaïe, c'était plus flou. Du temps de Jean-Baptiste, il savait exactement ce qu'il faisait. Et de notre temps, nous savons que nous ramenons la venue de Jésus par ce que nous sommes, par ce que nous proclamons, par sa vie en nous. Et donc Jean-Baptiste, quand on lui a demandé, mais qui tu es là ? Tu es l'Élie ? Il a dit, non, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert de nos vies, le désert de nos besoins, le désert de nos questions. Nous sommes cette voix en tant qu'Église. C'est fantastique en France. Tu passes la porte, le premier que tu rencontres, il ne connaît pas Jésus. On n'a pas à chercher loin. Hein. On peut vraiment apporter là où nous sommes, comme nous sommes, ce que nous sommes. Cette voix qui crie dans le désert. Mais que dit Jésus de Jean-Baptiste ? Alors on regarde dans Matthieu, au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Donc vous suivez ma pensée. Nous sommes la voix de celui qui crie dans le désert. Donc une forme de Jean-Baptiste, un esprit de Jean-Baptiste, une image de Jean-Baptiste, une pensée de qui était Jean-Baptiste. Et Matthieu 11, là c'est Jésus qui parle au verset 11, et il nous dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Eh, pas mal, hein ?« Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça, c'est une parole du témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste au chapitre 11, à partir du verset 11. Je cherche désespérément le verset suivant qui était mon lien avec la suite. Je suis, vous voyez, comme les grands prêcheurs, ça y est, j'ai perdu mon verset. On regarde au Matthieu 17. Pardon Seigneur. Et c'est encore Jésus, et il parle encore de Jean-Baptiste, et il dit, au verset 11 du chapitre 17, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Jean-Baptiste est l'Élie, c'est-à-dire l'esprit de cet homme qui avait les mêmes attributs que Moïse, qui a pu arrêter le temps, qui a pu arrêter les éléments. Cet homme dont il est parlé dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, vous allez à Matthieu, la page d'avant c'est Malachie. Si vous notez, ça vous permettra de faire un cursus. Juste le dernier verset qui nous dit, chapitre 4, verset 5. « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Je vous enverrai Élie, le prophète. Jésus dit, il est déjà venu. C'est Jean-Baptiste. Et on nous dit, nous sommes la voix qui crie dans le désert. Vous arrivez à faire les morceaux ensemble, là ? Nous avons une mission à accomplir, une mission de proclamer, une mission d'aller de l'avant pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter aussi le besoin de repentance, pour apporter tout le conseil de Dieu. C'est une mission grave. C'est une mission importante que nous avons qui nous est échue et comment nous allons y répondre. Voilà le centre de l'affaire. On revient à Matthieu 11. Matthieu 11, le grand homme qui était Jean-Baptiste. Il n'y en a pas eu de plus grand, a dit Jésus. Eh bien, Matthieu 11, au premier verset du chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions aux douze, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes. Jean, Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est étrange. Il est né pour ça, pour aplanir le chemin du Seigneur. Il l'a dit lui-même quand Jésus est venu se faire baptiser. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il l'a reconnu. Et puis il lui arrive des bricoles, il est en prison. Et puis il se pose des questions. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? C'est vrai que nous avons des schémas que nous formons, des projets. Nous décidons que les choses seront comme ci, comme ça et comme ça parce que ça s'est fait déjà ou parce que c'est la logique. Et puis, ça ne tourne pas comme on a décidé et puis on peut se poser des questions. Alors, verset 4, Jésus répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient,
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que je suis dans le schéma ? Est-ce que je suis dans le cursus ? Et le verset 6 est terrible. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il a perdu sa tête, hein ? Nous pouvons être dans le doute, nous aussi. Ça nous arrive à chacun. Nous sommes convaincus de certaines choses et puis ça ne tourne pas comme on veut. La logique voudrait que les événements devraient être comme ça. On est sincère, on est honnête et on commence à douter. Alors ça peut aller loin. Est-ce que j'ai épousé le bon ? Ça va, là c'est grave, ça peut être très loin. Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je suis dans la bonne église ? Allons bon. Ça peut aller très très loin. On se pose des questions et c'est comme ça qu'on a affaire à des frères qui viennent nous rencontrer, qui sont errants parce qu'ils ont eu des doutes dans leur prime église, où ça n'a pas été comme ils pensaient ou comme ils voulaient, où on ne leur a pas parlé comme ils souhaitaient et puis ils se sont laissés blesser. Je vous le dis, mon frère, ma sœur, si nous sommes blessés, c'est nous qui nous laissons blesser. C'est dur à avaler ce truc-là, parce que c'est les autres les méchants, c'est encore nous qui avons la faute. Parce qu'on doit revêtir Jésus et rien ne doit nous atteindre. Ça glisse, ça doit glisser. Mais c'est un peu dur à avaler cette affaire. Hein. Pour les enfants, ne pas se laisser blesser, c'est dur cette affaire. Et pourtant, c'est réel. Nous avons en nous cette autorité. Nous ne sommes pas des pantins, des marionnettes. Nous n'avons pas à nous laisser manipuler. Donc, ne nous pas nous laisser entraîner dans le doute, avoir la ferme assurance, parce que ça peut aller loin. Alors, je ne dis pas que l'Église peut perdre sa tête, mais n'ayons pas de doute sur notre mission, sur ce que nous avons à faire, sur le lieu où nous sommes et la fonction qui nous est donnée d'adorer le Seigneur, d'apporter la louange et la guérison aux nations. Alors, c'est vrai que nous avons subi comme tant d'autres, la misère du malin, parce que c'est pour tout le monde la même chose. Le malin, il procède toujours de la même façon. Il essaie de tuer, et encore tuer dans l'œuf. Alors, on vous l'a souvent partagé. Le pasteur, son équipe, nous avons prié pour des malades qu'on a rencontrés dans la rue. On nous dit, on ne vous voit plus. Non, on est guéris. Ils ne sont pas revenus louer le Seigneur. Alors c'est vrai qu'eux, ils ont leur part, mais nous, nous sommes frustrés. Frustrés de... On aime bien aussi que soit reconnu ce que nous faisons. C'est frustrant. Hein. On a même eu un frère qui hennissait dans l'église. Il a été délivré de l'esprit du cheval. Il jouait, il était très très versé dans les courses. Il hennissait dans l'église. Quand on a prié pour lui, l'esprit est parti. Il n'est plus là non plus. Hein. C'est frustrant. Parce que souvent, on considère l'église comme un supermarché avec la dernière promotion, avec ce qu'on va pouvoir en tirer, ce que je vais pouvoir gagner, en oubliant que nous sommes là pour servir son œuvre, servir le Seigneur, là où il nous a mis, en nous disant d'être fidèles. Des fois, ça ne marche pas comme on veut, comme dans les couples. Hein. Ah. L'église est un organe vivant, comme dans les couples. Ça ne marche pas toujours comme on veut, ce n'est pas pour ça qu'on claque la porte. On revient, on se demande pardon mutuellement, et on repart, et on a confiance, parce que c'est comme ça que le Seigneur a voulu que ça marche. Il sait de quoi nous sommes faits, il a marché avec nous. Si lui n'a pas péché en quoi que ce soit, il a vu ses frères se quereller, il a vu ses sœurs se crêper le chignon, il a vu ses collègues de travail peut-être, ou ceux qui étaient au service de son père dans la menuiserie, discuter dans son dos. Il a vu, il a entendu, il a su, il a vécu, il sait ce que c'est qu'un être humain. Lui n'a pas péché, mais il sait de quoi nous sommes faits, il connaît notre faiblesse. N'oublions pas le pardon, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne pouvons pas être pardonnés plus que dans la dimension de ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc cet esprit d'Élie, c'est un esprit de révélation. C'est un esprit de force. Dans l'Apocalypse, on l'a aussi pas noté vraiment. On nous parle de deux témoins. J'ai vu une sœur qui notait là. Apocalypse 11, 3, 6, on nous parle de deux témoins. Et l'identification de ces témoins n'est pas nommée. Par contre, ils ont les pouvoirs, ils ont la puissance de Moïse et d'Élie. Donc, ils sont présents tout au long. Et nous, nous sommes, eh bien, en marche. Chaque église a son identité, chaque église a son ministère, chaque église a sa mission. Et comment on va pouvoir le proclamer ? Rappelle-toi de ton premier amour. Tu te rappelles quand l'huile coulait de tes mains ? Parce que la présence de l'Esprit était si forte. Rappelle-toi la sainteté de la présence de Dieu au travers de ce témoignage dans ta vie. Qu'en est-il de cette sainteté aujourd'hui ? Est-ce qu'elle va se développer ou est-ce que dans le doute, tout le monde le fait, on fait autre chose, on dévie, on prend d'autres projets, on décide de faire autre chose ? Rappelons-nous de notre premier amour, le feu qui était en nous, la joie qu'on s'est fait ravir avec le fil du temps, avec la prudence que nous disons nous être munis. Cette prudence qui nous empêche de parler maintenant aux voisins, parce que, on prend plus de claques et de portes dans la figure que de bras ouverts et d'oreilles attentives. Mais nous ne sommes pas maîtres. Si nous sommes les laboureurs, on laboure et puis c'est tout. Hein. De temps en temps, quand même, on cueille des jolies fleurs. Hein. On a du plaisir de rencontrer des personnes qui sont le cœur ouvert. Ça fait du bien. Notre Dieu nous ordonne d'être puissants. Il nous ordonne d'être saints, parce qu'il est saint. Alors, laissons-le pénétrer en nous. Souvenons-nous aussi de la façon dont nous regardions la vie au début de notre vie chrétienne. Tout était beau. Je me souviens avoir lu dans le témoignage de Colson. Alors, pour vous, Colson, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas les trucs pour faire des bracelets, là, pour attacher les câbles. Colson était un ministre d'un président des États-Unis, Nixon, voilà. L'affaire du Watergate, c'est déjà beaucoup plus clair pour vous. Et ce Colson en question, ce ministre qui était sur le devant de la scène, s'est vu coincé dans des difficultés énormes et il a fortuitement, entre guillemets, été accueilli par un groupe de chrétiens aussi au gouvernement qui l'ont invité à se mettre à genoux et à demander pardon. Et il a reçu dans cette soirée avec ses hommes de foi, il a reçu le Seigneur dans son cœur. Et sa vie a été transformée. Oh, il est allé en prison, hein, mais il a œuvré en prison pour le Seigneur. C'est un ouvrage qui est assez ancien maintenant, je ne sais même pas s'il est peut-être là. Mais alors, il disait une chose, c'est que du jour où il a rencontré le Seigneur, il s'est aperçu qu'il y avait, les fleurs avaient une couleur. Il voyait la vie en noir et blanc. Il était dans sa politique, il était dans ses programmes, il était avec les missions qu'il devait accomplir. Mais il n'avait pas réalisé que la vie était en couleur, qu'il y avait des fleurs, que les arbres avaient des feuilles et que les feuilles tombaient des arbres. Ça, il n'avait jamais vu. Parce que, bien sûr, à Washington, on balaye au fur et à mesure. Alors, il ne s'était pas occupé de son jardin non plus. Combien nous sommes transformés lorsque nous venons à Jésus. Combien notre vie explose, combien notre vie éclate. Revenons à lui. Et nous avions un cœur pur. Tout le monde, il était beau, tout le monde, il était gentil. Hein. Longtemps, c'est ce qu'on a dit de nous. Et puis, on s'est aguerri parce qu'on a été blessé, on s'est laissé blesser, on a péché. C'était pas notre faute, on s'est laissé blesser. Et on s'est mis dans une petite carapace, et puis elle s'est épaissie avec le temps. Et nous avons perdu notre cœur tout simple, notre cœur où nous ouvrions la maison, on partait en vacances, on laissait les clés, et elle était utilisable. Je changeais tous mes draps avant de partir, comme ça tous mes lits étaient faits, prêts à être utilisés par qui en avait besoin. On les laissait à l'Institut biblique, et quand il y avait des visiteurs, ils avaient besoin d'une maison, la maison était là. Maintenant, je me dis, oula, je ne vais pas faire rentrer, laisser surtout mes clés à n'importe qui. Oula, si je pars en vacances, je vais mettre des verrous à certaines portes pour les condamner. Je n'ai plus la même confiance que j'avais. Peut-être ça s'appelle sagesse. N'empêche que mon cœur, il a été resserré. Parce que bah, j'étais le cœur ouvert et tout le monde se servait, prenait. Mais en même temps, quand moi j'ai eu quelques besoins, ben, je n'ai pas reçu, alors j'ai été déçue. Ben, pourquoi on ne m'a pas donné? Moi j'ai donné quand j'en avais. Pourquoi moi on ne me donne pas? J'avais des cerises, je donnais mes cerises. En ce moment, on nous donne du pain, je donne le pain. Ça revient quand même. Merci Seigneur pour le pain qui nous arrive. Loué soit le Seigneur, parce que ben, c'est une bénédiction. En plus du pain, vous vous rendez compte, c'est la manne. Gloire à Dieu. Nous sommes invités à revenir pour entrer dans la vision, une vision qui impose la sainteté. Comment pouvons-nous être puissants si nous ne sommes pas dans la sainteté? Comment pouvons-nous être saints dans notre louange si nous n'avons pas cette sainteté en nous? Donc nous sommes encouragés. J'ai eu vivement envie de vous partager ça. Ça fait longtemps que ça me turlupine. J'ai fait l'étude du cœur de Jean-Baptiste et je ne comprenais pas. Mais Seigneur, oui, mais ça m'amène où ça? Où est-ce que ça va ça? Et puis tout doucement, ça s'est mis en place. Et puis, ah! Parce que tout ce que nous recevons, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Je m'implique dans le revenir en arrière. Je m'implique dans la sainteté nécessaire. Oh, c'est pas grand-chose, mais quand j'avais ma boutique, eh bien, j'achetais 6 rouleaux de sopalin, j'en laissais 2 dans ma boutique, j'en ramenais 4 à la maison. Oh, c'est pas grand-chose. Et pourquoi on s'offusque quand les ministres, eux, ils prennent des millions? Chacun dérobe à sa façon. Oh, à son niveau, hein. Ça paraît tellement dérisoire, mais ça n'est pas la sainteté. J'ai dû demander pardon pour cela et j'ose le dire, j'ai pas honte, enfin j'ai honte devant le Seigneur, mais de vous partager que je suis de la même nature que vous, alors que je ne sais pas ce que tu as dérobé, je ne sais pas ce que tu as l'intention de détourner. Reviens, ça ne me regarde pas. Moi je sais que Dieu te voit comme il me voit et si je suis un livre ouvert, j'en prends plein aussi, mais c'est dans la joie parce que je sais qu'il m'aime et qu'il veut m'emmener plus loin, il veut m'emmener dans la puissance de son nom. Que quand je dis non, c'est pas mou et provisoire, c'est ferme et définitif. Non, non à l'ennemi, non au péché, non à ce qui est proclamé. Alors c'est vrai qu'on est très déçus ces temps-ci, comme disait ma belle-fille qui maintenant est au Canada, elle dit « j'ai l'impression que chaque fois qu'on prie, c'est le contraire qui arrive ». Ben oui, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais nous notre job c'est de prier. Et peu importe ce que nous voyons arriver, nous prions avec la fermeté dans le cœur et avec la sainteté renouvelée dans nos entrailles. Vous êtes d'accord avec ça? Alors retenez ce qui est bon, examinez toutes choses. La balle est dans notre camp, à chacun. Amen. Alors Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Parce que ta parole est la vérité et ta parole nous dit bien que on n'a pas le choix. Tu nous as demandé de bâtir cette église sur Persans. Cette église existe. Cette église veut aller de l'avant. Cette église veut être ton phare, ta lumière implantée dans ce lieu. Mais en même temps, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous-mêmes, nous, pierres vivantes. Et si nous ne nous édifions pas de façon sainte, de façon correcte, de façon puissante, cette église est dans la faiblesse. Alors Seigneur, eh bien, nous nous tournons vers toi, je me tourne vers toi, le cœur ouvert, te disant Seigneur guéris, Seigneur corrige, Seigneur transforme, Seigneur redresse. Oui, je me suis entraînée par le monde, les choses du monde. C'est pas juste ce que nous voyons, mais Seigneur, c'est pas le monde qui veut diriger notre vie, c'est toi. Alors Seigneur, pardon pour tout ce qui a été déjà dévié et merci parce que tu vas nous aider à nous reconstruire. Nous tous qui, le cœur ouvert, nous tournons devant toi. Louange te soit rendue, Seigneur, parce que tu veux une église en marche. Et tu nous as choisis et tu nous as donné les moyens. Les moyens physiques, les moyens musicaux, les moyens de compréhension de ta parole, l'intelligence pour cela, tu nous donnes tout. Nous avons tout à notre portée. Nous avons des finances aussi, Seigneur. Merci, parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui... Oh, ils se battent, hein. Mais à qui tu donnes le succès? Tu donnes la lumière pour diriger sainement et, avec sainteté leurs entreprises. Louange à toi, Seigneur, parce que tu nous rappelles que nous ne sommes pas du monde, quand bien même tu nous y as laissés. Et tu nous permets de marcher en nouveauté de vie avec la force renouvelée de ton esprit dans nos vies, que toute la gloire te revienne, que toute la majesté, l'honneur soient dans nos lèvres, mais aussi dans nos vies, que nous soyons ces livres ouverts qui viennent de toi. Amen.